Ce soir, on va voir une histoire que je trouve absolument merveilleuse, parce qu'en plus, elle est pleine de paradoxes. C'est toute la beauté, justement, des Saintes Écritures. Je vous propose de lire en introduction de cette histoire, quand même, un ou deux versets dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1er. On va pas lire l'histoire directement, mais d'abord, je vais planter le décor. Marc, chapitre 1er. On a l'histoire où Jésus est à Capernaum dans la maison de Pierre et la belle-mère de Pierre va être guérie d'une fièvre. Et alors qu'il est dans la maison de Pierre, c'était le sabbat, donc les Juifs ne sortaient pas le jour du sabbat parce que c'était le jour de repos. Et au moment où le soleil se couche, on n'est plus au sabbat parce que chez les Juifs, le nouveau jour commence le soir, au coucher du soleil. Et alors on voit, verset 32, le soir venu, après le coucher du soleil, dont on est passé au lendemain chez les Juifs, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher, et quand ils le retrouvaient, lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée. Et on voit aussi, à travers ce que nous venons de voir, que, alors je recherche l'endroit où c'est indiqué, mais tous étaient agglutinés dans la maison, jusque devant la porte. La foule était là, devant la porte de la maison de Pierre, et plus personne ne pouvait passer. Autre chose que je souligne ici, c'est qu'ils amenèrent à Jésus tous les malades, et il en guérit beaucoup. Je ne sais pas si vous réfléchissez au sens des mots, mais tous les malades sont amenés, et de la part de Jésus, on aurait envie de dire que tous ont été guéris. Mais non. Beaucoup ont été guéris. Ce qui veut dire qu'il y en a qui ne l'ont pas été. Alors est-ce que c'est Jésus qui avait un problème ? Non. C'est un problème d'incrédulité. C'est un problème de personnes qui ne pouvaient pas croire et qui ne voulaient pas saisir la guérison qui était à leur portée. Et j'aimerais que ce soir, ce ne soit pas votre cas. On est quelques-uns, mais j'aurais mal au cœur de savoir que l'incrédulité vous aurait empêché de saisir la grâce que Dieu veut vous donner ce soir. Ne faites pas partie de ceux qui n'ont pas pu saisir à cause de leur incrédulité. Ne faites pas partie de ceux qui, parmi tous ceux qui ont été amenés, n'ont pas fait partie de ceux qui ont saisi la guérison, n'ont pas saisi le salut que Dieu voulait donner. Alors on va aller à notre histoire parce que voilà, le contexte c'est ça, c'est qu'à Capernaum, quand Jésus se retrouve chez la belle-mère de Pierre, la foule vient. Au chapitre 2, on voit quelque chose, cette histoire, on va la lire et je vais la commenter après. Chapitre 2, donc Jésus est parti, il a rencontré un lépreux qui l'a guéri d'ailleurs, et il revient à Capernaum quelques jours après. Je commence la lecture. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous avons jamais rien vu de pareil. » Cette histoire, moi, je la trouve magnifique. On a tout à l'heure chanté « Jésus est descendu du ciel », ben là, c'est l'inverse. C'est un pécheur qui descend. Si on regarde cette histoire, il y a plein de paradoxes comme ça. Ici, c'est le pécheur qui descend du ciel, entre guillemets, et c'est Jésus qui est en bas. Et c'est parce que le pécheur va descendre que la lumière va rentrer dans la maison. C'est assez surprenant. Ils étaient dans une pièce sombre, parce que la maison avait son toit. Et le trou que va provoquer le toit va faire pénétrer dans la maison de la lumière. Et c'est le pécheur qui rentre, qui amène la lumière. C'est incroyable cette histoire. Moi, elle m'émerveille quand j'y réfléchis à chaque fois. Et un autre paradoxe que je relève dans cette histoire, c'est d'ailleurs le titre de ce message, un paralytique vient à Jésus. J'aimerais te dire que normalement, si tu es paralysé, tu ne peux pas bouger. Et là, on a affaire à un paralytique qui vient à Jésus. Un paradoxe de plus. Là, j'en suis déjà, ça fait pas longtemps que je prêche, j'en suis au troisième. Paralytique qui vient à Jésus. Il y a d'autres histoires dans la Bible où on voit Jésus qui va vers un paralytique à la piscine de Bethesda, paralysé depuis 38 ans. Là, c'est Jésus qui est venu à lui. Mais là, c'est l'inverse. C'est un paralytique qui vient à Jésus. Et ça interpelle quand même. Ça interpelle. Moi, quand je lis ça, moi, ça m'émerveille. Alors, de quoi parlons-nous ? On parle d'un homme paralysé qui va venir à Jésus. Pourquoi j'ai voulu lire tout à l'heure les autres versets ? Parce que je vais y venir tout à l'heure. On pourrait penser que quand Jésus dit « voyant leur foi », il s'adresse aux quatre hommes, mais moi, je suis convaincu qu'il parle bien aux cinq. Et que le paralysé, il est acteur de sa guérison. Et il est même acteur de plus que sa guérison, de son salut. Ici, on a affaire à quelqu'un qui est paralysé. Et alors qu'il entend ce qui se passe dans la maison de Pierre, il a su, je ne sais comment, que quelques jours avant, Jésus était là et qu'il y avait la foule. Alors ici, et qu'il y a eu beaucoup de guérisons, il s'est dit, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? C'est pas écrit ce que je vous dis, mais je l'imagine très facilement. Et on voit là toute l'audace de peut-être cet homme, c'est peut-être lui-même qui est à l'origine de tout ce qui va se passer. Et il savait peut-être que même il allait rencontrer des difficultés, alors il s'est posé la question, mais pour y aller, déjà, il me faut des personnes. Alors, il va... Peut-être que c'est les hommes qui vont l'amener, mais ce paralytique, moi, je crois, il est acteur. C'est mon opinion personnelle, là, que je vous partage, c'est pas écrit. Mais moi, je crois qu'il est vraiment acteur de sa guérison. Il l'a saisi, vraiment. Et quatre hommes vont être utilisés pour le porter. Et il va faire appel à ces quatre hommes. Et c'est sur l'impulsion de ces quatre hommes qu'eux aussi vont saisir avec cet homme justement tout ce que Jésus avait en réserve pour eux tous. Moi, je trouve que c'est d'une audace incroyable ce qu'ils vont faire. C'est d'une audace incroyable. Et moi, j'imagine que probablement cet homme paralysé avait imaginé comment ça se passerait, dans le sens où il a su ce qui s'était passé quelques jours avant. Il savait qu'il y aurait probablement la foule. Et il a tout prévu. Il fallait quatre. Il en fallait au moins quatre. Parce que j'en sais rien. Comment lui est venue l'idée de passer par le toit ? Mais être quatre, c'est quand même bien pratique pour le descendre. Donc ils sont partis à quatre. Ils auraient pu aller à deux. Mais ils sont allés à quatre. Ils sont allés à quatre, chacun son coin. Et ils l'ont porté comme ça. Et c'est Marc qui nous dit qu'ils étaient quatre. Alors peut-être qu'il y avait d'autres choses, peut-être que ce paralysé était lourd, tout simplement. Vous savez, des fois, quand on ne bouge pas, on grossit. Peut-être qu'il y avait un chemin long et que pour préserver les forces de chacun, c'était mieux qu'il soit quatre. Je crois qu'il y a aussi d'autres raisons. Et les raisons sont peut-être plutôt spirituelles. Moi, quatre, c'est un nombre qui me parle de l'universalité. Vous allez me dire, c'est quoi ce mot ? L'universalité. Alors, pour vous aider à réfléchir, combien y a-t-il de points cardinaux ? 4. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Enfin, vous, c'est inversé. Mais... combien on a de saisons dans l'année ? On en a 4. Hiver, printemps, l'été, l'automne. Combien y a-t-il de moments dans la journée ? Il y en a 4. Il y a le matin, le midi, le soir et la nuit. 4 nous parle de tout lieu, de tout temps, de quelle que soit l'époque de l'année. Et ce nombre 4 nous parle finalement que nous sommes tous concernés par cette histoire. Ce pécheur qui vient, Jésus, ce pécheur qui va descendre du toit, on ne va pas dire du ciel quand même, eh bien, c'est vous, c'est moi. Ce nombre 4 nous dit que qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit le moment, tu peux venir à Jésus. Ce nombre 4, il doit nous porter. Il doit nous porter parce que ça doit nous indiquer que tout est possible, quel que soit l'endroit où tu te trouves, aussi bas que terre tu puisses être. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour venir te chercher. Il n'est pas trop court pour venir te tirer de là où tu es. Le chiffre 4, il nous parle aussi de tous les hommes. Et la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs devant Dieu et sont privés de sa gloire. On ne peut pas être auprès de Dieu. On ne peut pas espérer être auprès de Dieu si le péché qui est en nous dès notre naissance, c'est David qui l'écrit. Ma mère m'a conçu dans le péché, pas qu'il est né d'une liaison adultère, mais que David est né, c'est ce qu'il dit, dans le péché. Il avait compris qu'il y avait quelque chose en lui qui l'empêchait de faire le bien. Et celui qui est honnête parmi nous ce soir sera d'accord avec cette parole. On n'a pas besoin de se justifier. On sait tous que le mal est en nous et on ne peut rien faire contre ça. On a plus de facilité à avoir des pensées orgueilleuses, à se croire supérieur aux autres. On a plus de facilité à ramener tout à nous, à être dans l'égoïsme, l'individualisme. On a tous plus de facilité à avoir des paroles désagréables. Bref, je peux multiplier les exemples et vous savez très bien comme moi que c'est naturel. On n'a pas besoin de se forcer pour ces choses. Pourquoi ? Parce que c'est le péché qui est en nous, qui est dans notre nature, qui nous pousse à ces choses. Tous ont péché. Mais le 4 m'indique aussi que Jésus est venu pour sauver tous les hommes, parce que cet homme-là, il va être sauvé, porté par ces 4 hommes. Il va être sauvé. Dans la Bible, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez cette notion d'universalité ? Nous sommes tous pécheurs. Mais Dieu aime tous les hommes. Seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous appartient de saisir notre salut parce qu'il a été obtenu par la mort de Jésus sur une croix. Son sang a coulé pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il est mort pour nous. Il a livré sa vie. Il a livré son dos, même dit Isaïe au chapitre 50. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Voilà ce qu'est venu faire Jésus sur cette terre. Alors dans cette histoire de cet homme paralytique, on voit quand même que il en ressort quand même cette audace incroyable. Ce paralysé vient à Jésus. Déjà, rien que ça, c'est de l'audace. Porté par 4 hommes. Et l'audace de ce paralysé va être transmise à ces 4 hommes. Et ils arrivent à la maison de Pierre. Et on ne peut pas passer. Qu'à cela ne tienne, on passera par le toit. C'est ça la foi. C'est ça l'audace qui veut saisir vraiment ce que Dieu veut donner. Et ils n'ont pas eu froid aux yeux, ils sont passés, est-ce qu'ils sont passés par le voisin, parce que les maisons étaient très proches, est-ce qu'ils sont passés par l'escalier, le petit escalier extérieur qui longe les maisons, qui permet d'aller au toit, les toits étaient facilement trouables, parce que c'était fait avec des branchages de l'argile qui avait durci, ils ont fait le trou, imaginez la réunion, Jésus est en dessous, et quand il prêche, tout le monde l'écoute, puis d'un seul coup, il y a des morceaux de terre qui tombent du plafond, ils commencent à entendre des bruits. Ça a dû perturber un peu la prédication, je suppose. Et pourtant, alors que Jésus est en train de prêcher, et il n'est pas perturbé d'ailleurs par la situation. Jésus n'est jamais perturbé par quoi que ce soit. Mais je ne sais pas, j'imagine peut-être, est-ce qu'il a été étonné, j'en sais rien. Mais de voir ainsi le trou se faire, la lumière rentrer dans cette maison, alors que ce pêcheur descend du ciel, ça doit faire drôle. Ça doit faire drôle. Et pour tous ceux qui étaient là, d'ailleurs, un autre évangile dit « Nous avons vu des choses étranges aujourd'hui ». Et c'est vrai qu'il y avait de quoi surprendre. Des choses étranges. Oui, paradoxales. Complètement paradoxales. La lumière rentre avec le pêcheur. Jésus, ce qu'il voit, c'est pas, à la limite, c'est pas le péché de cet homme dans un premier temps, mais il voit la foi. Il voit la foi de ces cinq hommes. Il voit l'amour des quatre là, qui aimaient ce paralysé et qui ont fait tous ces efforts pour lui. Une foi qui aime, une foi qui porte. Une foi qui persévère malgré les difficultés. Une foi qui reste centrée sur Jésus et une foi qui est récompensée. Peut-être parmi nous, ça, je dis ça pour les chrétiens qui sont là, on peut avoir des personnes comme ça qui ont besoin d'être portées. Soyons de ceux qui vont les entourer et qui vont les porter s'il le faut, pour les amener au Seigneur. Celui qui donne un verre d'eau froide, dit la Bible, ne perdra point sa récompense. Je ferme la parenthèse. Jésus voit cet homme descendre, et ce qui m'amène à dire qu'il est acteur de ce qui lui arrive, c'est ce que lui dit Jésus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 5. Il a affaire à un pécheur. Est-ce qu'il est d'ailleurs venu chercher la guérison? J'aurais envie de dire, pas si sûr. Peut-être qu'à cet endroit, Jésus répond au premier désir de cet homme. Visiblement, on a affaire à quelqu'un qui est quand même spirituel. Il est peut-être infirme dans son corps, mais à l'intérieur, ça semble aller bien là-dedans. Au point que Jésus lui dit « mon enfant ». Quand Jésus dit « mon enfant », c'est lourd de sens. Il ne dit pas ça comme ça rapidement. Quand Jésus se permet de dire « mon enfant » à quelqu'un, c'est qu'il est son enfant. Ça veut dire que cette personne-là, elle était déjà enfant au moment où... C'est pas non plus pour être attendrissant, c'est pas parce que Jésus a eu pitié qu'il a dit ça. Non, c'est parce qu'il y avait un réel état de cœur. Cet homme paralysé était déjà, quelque part, enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a mis sa foi en action. Jean écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Cet homme paralysé avait déjà cru. Il avait déjà cru. Et ce qu'il voulait saisir, c'était la délivrance. Et Jésus va lui donner ce qu'il est venu chercher. Il va avoir cette assurance qu'il est pardonné de ses péchés. On voit que Jésus s'inquiète d'abord du péché. Avant d'aller sur la guérison, ce qu'il voulait absolument mettre en lumière ici, c'était le fait qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et la suite de l'histoire nous l'indique. La guérison est presque anecdotique. Derrière, il y a l'attitude de ceux qui sont assis au pied de Jésus. Comme quoi, on peut être assis au pied de Jésus, on peut assister à des réunions sans pour autant être enfant de Dieu. parce qu'on reste incrédule. Et ici, on a les Juifs qui connaissaient la parole, mais qui l'interprétaient tout le temps mal. Parce qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu en eux. Alors, tout ce qui était écrit, ils l'interprétaient à leur manière. Et ils n'étaient pas enfants de Dieu. Les Juifs pensent que Jésus blasphème quand il dit « tes péchés te sont pardonnés ». Effectivement, Marc nous dit bien qu'il va y avoir un premier miracle là. On en est peut-être au troisième parce que les péchés sont pardonnés. Ensuite, on en arrive à une révélation de Dieu. Ce n'est pas encore la guérison là, du corps. Jésus, avant d'aller plus loin, va révéler le secret des cœurs. Ce n'est pas donné à tout le monde de connaître ce qu'il y a dans la pensée de chacun. Jésus, lui, le pouvait. Et c'est ce qu'il va faire. Et seules ces personnes auront connaissance de ce qui se passe. Seuls les Juifs qui étaient réfractaires, on voit toute la grâce de Dieu parce que eux, quelque part, ils vont recevoir plus que les autres, parce que Jésus va dévoiler leurs pensées devant tout le monde. Il va prouver par là même ce qu'ils pensaient. Alors peut-être qu'ils auraient eu la malhonnêteté, peut-être qu'ils l'ont dit après, on ne sait pas, c'est pas écrit. Mais est-ce qu'ils ont eu l'honnêteté de reconnaître que Jésus avait vraiment dévoilé leurs pensées? Ils n'ont rien rétorqué à Jésus, en tout cas. Jésus dévoile les pensées de leur cœur. Et cela même pour prouver, donner du crédit à ce qu'il va faire après. Les Juifs avaient le tort de lier les mots, M-A-U-X, au péché. Si tu es malade, si tu es infirme, c'est parce que tu es pécheur. Et on voit, quand on lit les évangiles, que ce n'est pas toujours le cas. Qu'il y a des personnes qui spirituellement vont bien, mais qui des fois peuvent être atteintes dans leur corps. Ça arrive. Et les Juifs ne l'avaient pas compris. Jésus, lui, il voulait montrer que cet homme-là était pardonné. Dans la Bible, il est écrit que Jésus, pour prouver qu'il était capable de pardonner les péchés, il va quand même opérer à la guérison du corps. Parce que les œuvres vont être comme un témoin extérieur d'ailleurs. Jésus, quand il parle des œuvres qu'il fait, il reproche aux Juifs de ne pas croire à cause des œuvres qu'il fait. Pourquoi ? Parce que les œuvres qu'il fait ne sont pas tout à fait de lui, sont du Saint-Esprit qui habite en lui, qui fait les œuvres. Et ce Saint-Esprit qui agit à travers la parole de Jésus est un témoin extérieur au fait que Jésus dit la vérité. Jésus dit la vérité, et quand il dit « tes péchés te sont pardonnés », eh bien, les Juifs devaient le croire sur parole. Et pour être sûr que ce soit vrai, le Saint-Esprit accomplit le miracle. Et c'est Jésus qui accomplit le miracle, mais avec le Saint-Esprit qui est en lui. Et on voit ici que ce que la Bible écrit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Jésus est celui par lequel on peut être pardonné de nos péchés, guéri de nos maladies. Il est écrit ailleurs, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » C'est Dieu qui parle. « Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu veut pardonner. Dieu veut guérir. C'est sa volonté. Et Jésus est Dieu parce qu'il est venu donner sa vie sur la croix. Et c'est pour ça qu'il peut dire ces choses. C'est pour ça que derrière, la guérison a pu se faire. Parce que Jésus n'a jamais commis de péché. Et Jésus, à la fin de son ministère, va aller jusqu'à la croix du calvaire, qui prouve encore son amour pour nous, alors que nous sommes encore des pécheurs. Jésus est mort pour des pécheurs que nous sommes. Les Juifs, eux, restent incrédules. Les Juifs restent incrédules. Et on voit plus loin dans les évangiles une controverse d'ailleurs avec Jésus et les Juifs qui eux disent qu'ils sont fils d'Abraham et Jésus leur dit « Si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. » Jean 8, 39. Les œuvres d'Abraham, c'est quoi ? C'est des œuvres de foi. Abraham est parti sur la parole même de Dieu sans savoir où il allait et il avait une confiance absolue en Dieu. Et c'est finalement ce qu'a fait cet homme paralysé. Il avait une foi absolue en Jésus. Et finalement, il a obtenu gain de cause parce qu'il était fils d'Abraham. À l'inverse des Juifs qui l'affirmaient, Jésus va même plus loin en disant « Vous avez pour père le diable ». Pourquoi ? Parce qu'il restait dans l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, elle vient du diable. C'est la première chose qu'il dit. Dieu a-t-il réellement dit ? Le diable me pousse à l'incrédulité. Et si je suis incrédule, eh bien, si je reste dans cette impossibilité de croire, eh bien, j'ai en moi le fruit de ce que m'inspire le diable. Dieu a-t-il réellement dit ? Si je suis incrédule et que je ne crois pas ces choses, je suis aussi fils du diable. Et le diable, sa destination, c'est le jugement éternel. C'est le jugement où il ira après dans un étang de feu et de soufre, dit la parole. Et j'aimerais vous éviter ce soir de prendre cette même direction. J'aimerais vous éviter d'avoir à subir le même sort de ce que le père du mensonge et de l'incrédulité, je pourrais le rajouter, va avoir comme sort. Parce qu'il aura le même sort, lui et tous ceux qui sont ses enfants quelque part. À l'inverse, ceux qui sont comme cet homme qui va mettre sa foi en Dieu au point de traverser les obstacles. Et les obstacles, quand on lit cette histoire, ce n'est pas des petits obstacles. Et malgré tout, il va y aller. Il va y aller. Le premier obstacle de cet homme, c'est sa propre paralysie. Eh bien, il la contourne, il se fait porter. Deuxième obstacle, la foule. Qui bloque l'entrée. Eh bien, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, on peut pleurer sur notre sort et dire « Ouais, mais il y a ceci, mais il y a cela. » Si vraiment tu veux saisir la grâce de Dieu, tu peux la saisir. Et tu ne pourras pas te trouver d'excuses. Parce qu'il y en a qui ont su contourner les obstacles pour la saisir. Et ne te plains pas d'avoir des obstacles. Parce que les obstacles sont une excuse dont tu peux te servir pour justifier ton incrédulité. Et devant Dieu, ça ne tient pas. Le Seigneur t'appelle ce soir. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Jésus, à travers cette histoire, il va prouver qu'il peut pardonner les péchés. Et la guérison sert à ça. Mais cet homme, c'était... Peut-être qu'il est venu chercher la guérison quand même. Mais est-ce que c'était son premier objectif ? Je n'en suis pas certain. Et le plus important, quand on voit les miracles de Jésus, Jésus cherchait toujours, en plus de la guérison, à faire comprendre à ceux qu'il côtoyait qu'il y avait plus important que la guérison du corps. C'est le salut de leur âme. Et ce soir, j'aimerais te dire la même chose. Peut-être que tu aimerais que le Seigneur te fasse du bien. Peut-être que tu aimerais que le Seigneur intervienne dans ta vie, sur cette terre. Et Dieu désire le faire. Mais il y a tellement plus important. Il y a le salut de ton âme. Dans ce qu'on a lu en introduction, on voit que tous sont venus, beaucoup ont été guéris. Et le lendemain, il le cherchait, Jésus. Il était parti. Il le cherchait. Et il était parti. Je ne voudrais pas ce soir que tu te retrouves dans la situation de celui qui va chercher Jésus et qui sera reparti. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, dit la parole, il est au milieu d'eux. Un jour viendra où ceux qui s'assemblent vraiment dans le nom de Jésus ne seront plus là. Ils seront enlevés. Et Jésus sera parti avec eux. Et tu le chercheras peut-être. J'aimerais t'éviter ce moment où tu réaliseras que ceux que tu connais, qui connaissaient Jésus et qui appliquaient leur vie à se consacrer et à faire sa volonté, sont partis et que toi tu es resté. J'aimerais t'éviter de vivre ces moments. Sans parler même de l'enlèvement, on pourrait aussi évoquer notre vie qui ne nous appartient pas. Nul ne sait de quoi sera fait demain. On a appris il y a quelque temps qu'une jeune femme, on peut le dire, 44 ans, c'est pas vieux, a fait un AVC et s'est retrouvée entre la vie et la mort. Récemment, on a eu le triste témoignage d'un jeune garçon, 7 ans, qui est décédé du cancer. On ne peut pas dire « j'ai la vie devant moi », parce que la vie ne nous appartient pas. J'aimerais ce soir que tu comprennes l'importance de faire la paix avec Dieu. Jésus est mort pour toi sur la croix, et c'est pour cela qu'il peut pardonner tes péchés. Et c'est aussi pour cela qu'il pourra intervenir dans ta vie sur cette terre. Est-ce que tu veux venir à lui? Est-ce que tu es prêt à contourner les obstacles? Oui, mais même si tous m'abandonnent, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux saisir cette paix que tu veux me donner. Quel qu'en soit le prix, Seigneur, je veux venir vers toi. Parce que le prix que toi tu as payé, il est bien supérieur. Si tu réalises que tu as besoin de sa grâce de Dieu, alors lève la main maintenant, à ta place. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit à gauche, à droite, au milieu aussi. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit aussi au milieu. Oui, le Seigneur te voit à gauche avec les deux mains. Je vais prier. Le Seigneur te voit à droite aussi. Tu peux baisser la main. Je vais prier, je vais demander au Seigneur sa grâce sur vos vies. Notre Dieu, nous nous approchons de toi. Nous te disons merci parce que en toi nous avons toutes choses. En toi, nous avons tout. Nous avons la vie, parce que toi, tu es mort. Nous avons le pardon de nos péchés, parce que toi, tu as été condamné. Seigneur Jésus, nous avons aussi cette assurance que là maintenant, alors que je prie pour mes amis qui te demandent ta grâce, alors que je prie, je sais que tu intercèdes pour eux, auprès du Père, parce que c'est écrit dans ta parole. C'est sur ta parole que je m'appuie pour te demander ta grâce. Que ces vies changent. Que le Saint-Esprit vienne sur eux. Et qu'ils puissent vraiment faire cette expérience. Que tu puisses leur ouvrir les yeux. Que le Saint-Esprit puisse agir dans chacune des vies. Qu'il y ait de réelles repentances, de réelles conversions. C'est toi qui parles au cœur. Seigneur, je te demande ta grâce. Et je te remercie pour ce moment encore que tu permets, où des hommes et des femmes peuvent encore saisir ta main. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie et je te rends grâce. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. On va prendre un dernier chant. Et quand on prie, je vais le lire ce passage quand même, parce que ça me semble important avant de... C'est pas de la tradition que nous faisons quand nous prions pour ceux qui s'avancent. Dans l'évangile de Marc, il est écrit ceci. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On n'est pas toute la création, mais là ce soir, c'est ce que je viens de faire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce que je lis, c'est écrit. Donc on le met en pratique, parce que c'est ce que Jésus nous demande. Et si je le fais, c'est pas par tradition, c'est pas par habitude, c'est pas par routine. Et je vous le dis ce soir. Que si vous vous approchez, vous pouvez saisir par la foi une bénédiction que Dieu veut vous donner. Et si vous avez quelque chose à saisir, à demander à Dieu, eh bien, je vais mettre en pratique la parole, tout simplement, en me basant sur ce texte. Et la seule raison qui me pousse à le faire, c'est ce qui est écrit, ni plus ni moins. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse aussi vous faire du bien en cette soirée, que vous puissiez repartir le cœur léger. Que Dieu vous bénisse.